Les semaines qui suivirent cette rencontre d'importance passèrent bercées par le quotidien auquel tout curé doit s'attendre, avec la simple différence que Chambolle semblait avoir une étrange activité nocturne. Accompagné de son fidèle Jeannot, il faisait de fréquents voyages de la cure jusqu'à sa grange, en transportant toujours le même petit sac, vide à l'aller et plein au retour. Puis, pendant de longues heures de la nuit, on pouvait apercevoir la clarté des bougies filtrées à travers ses persiennes. Tous ses fidèles s'interrogeaient sur son étrange comportement. Ils avaient même interrogé Jeannot, espérant lui tirer les vers du nez. Le gamin ne dévoila rien de son secret.
« Non, tout va bien, » dit-il. « On range la grange, on y a trouvé de nombreux livres très intéressants mais en très mauvais état. Et vous savez, monsieur le curé adore la lecture. Alors le soir, on s'occupe de les réparer et il me lit des tas de choses drôlement instructives. »
Cette version officielle avait été inventée d'un commun accord et semblait d'une explication très plausible qui éloignerait à coup sûr la plupart des curieux. Et c'est un fait. Les gens ne s'étonnèrent plus vraiment de leur discrète pérégrination. Seul peut-être monsieur Dardame, l'homme qui, depuis l'épisode du cimetière, s'intéressait de très près à ces deux lurons. Puis un jour, une bonne demi-heure avant le début de la messe, une magnifique calèche s'arrêta devant l'église de Gex. Quatre personnages, richement habillés, en sortirent. Parmi eux, on pouvait reconnaître monsieur Fleming, puis le comte de Rambadère, le banquier Bucher et le bourgmestre Mansfeld. Ces illustres personnages prirent place dans le fond de l'église et suscitèrent l'étonnement de la communauté des fidèles. Puis la messe commença. Les commères locales eurent beaucoup de mal à suivre l'office et échangèrent pendant l'intégralité du sermon des chuchotements et des regards interrogateurs. Chambolle, par contre, fit mine de ne pas s'apercevoir de cette présence exceptionnelle. Il connaissait parfaitement la raison de leur venue. Mais malgré la curiosité et la fierté qu'il éprouvait de pouvoir rencontrer ces notables, il prit un malin plaisir à rallonger sa messe, se délectant du prochain triomphe dont il allait bientôt jouir. Comme à son habitude, il serra la main de tous ses paroissiens, puis Fleming et ses compères, qui discrètement avaient attendu dans la pénombre du bâtiment la fin des salutations, s'avancèrent vers le curé. Celui-ci mima la surprise et s'excusa de son inattention. Fleming lui chuchota quelques mots à l'oreille. Le curé fit un discret signe de déférence à l'intention des illustres quidam et les invita à le suivre.
« C'est extraordinaire !»
Ces deux mots, émanant de Fleming, furent les seuls que l'on put entendre lorsqu'ils franchirent le porche de son jardin. La tête d'Ernest Pupa foisonnait de questions. Cette histoire l'intéressait et l'intriguait de plus en plus. Les propos du prêtre naviguaient dans son cerveau, exacerbant son imagination d'images dépeignant de colossales et inimaginables richesses. Il voyait clairement la physionomie de Chambolle, l'imaginant suivi par Jeannot transportant des bijoux fabuleux, des vases en or massif. Et l'image de Léonette de Joinville, princesse de Gex au Moyen-Âge, lui souriait heureuse que son trésor soit enfin débusqué et prochainement mis au service de la communauté. Puis, il se représentait ces quatre sommités genevoises, admirant le pactole, congratulant Chambolle et lui faisant l'offre d'une rente confortable en échange de ses nombreuses reliques médiévales. Il se représenta Chambolle en train de négocier avec intelligence sa découverte, ne dévoilant qu'au goutte à goutte la richesse qu'il détenait.
« Mais au fait, » demanda-t-il, « Père Trambert, comment connaissez-vous autant de détails sur tous ces événements ?»«
Eh bien !»
Monsieur Dardame venait de consigner sur son petit carnet les derniers détails de ses observations. Ce soir, il irait faire un tour dans la cage de Chambolle et verrait bien ce que cache tout ce mystère. Il était minuit passé quand il pénétra dans la grange. Un simple clou tordu en forme de clé lui permit de forcer le cadenas rustique qui en sécurisait l'entrée. Il alluma sa lampe tempête et observa l'amas métallique qui lui faisait front et qui aurait rebuté, par son enchevêtrement, n'importe quel visiteur. Ayant espionné Chambol et son comparse, il se rendit sans hésitation devant le passage qu'il avait si difficilement préparé, se mit à quatre pattes, retira les deux rondins d'acier qui avaient été posés là pour déguiser l'entrée et, faisant glisser devant lui la lueur tremblotante, il s'engagea dans ce corridor hétérogène. Sans qu'il s'en aperçoive, le petit Carnet, gardien de ses observations, avait quelques instants auparavant glissé de sa poche et s'était retrouvé parmi les poutrelles de fer à mi-chemin dans l'entrée du tunnel. Dardane se mit à ramper avec difficulté dans le souterrain, puis atteignant le boyau plus large, il se redressa pour cheminer avec précaution et s'enfonça dans les entrailles de la galerie malodorante. Fit-il une découverte? Personne ne le sut jamais. Malheureusement pour ce pauvre homme, nous étions le 12 octobre 1869, à 1h12 du matin, le jour de ce terrible tremblement de terre qui secoua la Haute-Savoie si proche et projeta son onde de choc sur le pays de Gex. Le résultat de cette secousse fut, heureusement, sans conséquence réelle pour la ville, car seules quelques maisons furent légèrement endommagées. Mais la galerie, insuffisamment étayée, rendit l'âme en s'effondrant sur elle-même.